I don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的牧民达家.
Hollywood star की कपड़ों की लोड शेडिंग की बात कर रहे हैं.
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50, une émission préparée ce matin par Tiffaine de Rocchini, mais aussi Clément Salazar, Xavier Martinet, Audrey Rameau, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en onde ce matin par Jacques Cazubert et Cécile Finet. On poursuit notre série consacrée à l'art du mensonge. Plongeons aujourd'hui dans le cyberespace. Il y a quelques jours, le 16 octobre dernier, le géant américain de la vente en ligne Amazon attaquait en justice plus d'un millier d'internautes qu'elle accuse de publier de faux commentaires sur son site moyennant rémunération. Dans sa plainte auprès du tribunal américain, Amazon leur reproche de mettre à mal sa réputation par des commentaires mensongers et trompeurs. En France, cette fois-ci, un internaute a récemment été condamné à 2 500 € d'amende pour avoir rédigé un commentaire faux et malveillant visant un restaurant du groupe Bernard Loiseau à Dijon, selon un jugement. Le commentaire incriminé date de juillet 2013. Il avait été publié sur le site des Pages Jaunes et il est cinglant, restaurant très surfait, tout en apparat, très peu de choses dans l'assiette. L'assiette la mieux garnie est celle de l'addition. Problème, le restaurant n'était même pas encore ouvert et l'avis négatif est donc apparu 5 jours avant l'ouverture des portes du restaurant. Cette pratique est loin d'être isolée, les faussaires du web sont légion et les entreprises qui doivent y faire face sont bien désemparées. Faux profil, faux like, derrière les paravents numériques, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Je pense que comme de plus en plus de gens sont aujourd'hui dans les réseaux sociaux, on ne se préoccupe plus de qui exactement clique sur les pages. Il y a ce moyen maintenant pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'éthique et qui ont ce besoin de reconnaissance d'acheter des faux likes.
La majorité des fans venaient de Dhaka, au Bangladesh. Il y a des usines à likes là-bas.
Je ne pense pas que ce soit bien ou mal de faire cela, mais bien sûr, tout est faux. En revanche, les gens pour lesquels on travaille, ils peuvent maintenant vanter les mérites de leurs produits, de leur business.
En vraie vue, je veux dire en vraie vue sur YouTube, c'est 3 dollars les 1000 vues. Si tu veux que les profils des visiteurs aient l'air crédibles, alors ça prendra un peu plus de temps, disons 3 ou 4 heures. Nous, on peut te fournir le soutien réel de 15 000 comptes Facebook et personne ne pourra nous bloquer.
Les gens pour lesquels on travaille peuvent vanter les mérites de leurs produits, de leur business, nous dit ce responsable d'une click farm en anglais, une usine à like, ces entreprises en Inde ou au Bangladesh notamment, où des petites mains éditent de faux profils, passant des heures à cliquer, à éditer des commentaires, à booster la popularité d'entreprises ou d'hommes politiques, des femmes, des hommes politiques qui gagnent plusieurs milliers d'abonnés sur leur compte Facebook, Twitter en quelques heures, des vidéos YouTube visualisées des centaines de milliers de fois afin de soutenir la sortie du titre d'un artiste d'une grande maison de disques, ou encore des internautes recommandant tel ou tel restaurant, hôtel, alors qu'ils n'y ont jamais mis les pieds. Internet peut parfois ressembler à une véritable fabrique du mensonge, véritable marché de la tromperie qui, globalisation oblige, est lui aussi le théâtre de la mondialisation. Alors quelle est l'ampleur de ce phénomène? Qui sont ces acteurs qui se cachent derrière le marché de la réputation numérique? Comment s'organisent-ils? Quel est le profil des entreprises sollicitant ces services? Et comment le combattre? Comment distinguer le vrai du faux? Que nous dit la loi aussi face à cette usine à like et autres fabriques de faux commentaires? Voilà les questions qui vont nous intéresser ce matin dans cette série consacrée à l'art du mensonge. Et pour ce faire, nous avons invité un chercheur au Centre de Recherche en Management de Toulouse. C'est Andreas Munzel qui est justement du Plex depuis Toulouse. Bonjour Andreas Munzel.
Bonjour Monsieur Delorme.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors évidemment, l'un des secteurs, et j'en ai un petit peu parlé dans mon introduction, où les faussaires, les cyber-faussaires sont les plus nombreux, c'est le tourisme aujourd'hui. On est de plus en plus connectés évidemment aux réseaux sociaux et on fait régulièrement appel à eux pour se forger un avis sur tel ou tel restaurant, sur tel ou tel hôtel. Dans quelle mesure ce secteur en particulier est-il vérolé par les faux avis, les faux commentaires? Pour dire autrement, est-ce qu'on a une idée de l'ampleur des avis qui présentent, disons, des anomalies?
Oui, donc tout à fait, c'est le tourisme qui touchait en premier. Aujourd'hui, il y a des études, notamment de la DGCCRF, qui disent qu'il y a 45% des avis qui présentent des anomalies. Donc, anomalies dans leur définition, c'est à la fois des anomalies liées à la modération, à la gestion des avis côté gestionnaire du site, mais dans une très grande partie également, donc des faux avis, des avis publiés par des entreprises, des marques, des agences, des réputations également, qui, par usurpation d'identité, se présentent comme un utilisateur normal, un consommateur normal.
Et visiblement, il y a des différences entre l'Europe et les États-Unis. L'Europe serait peut-être plus touchée par ce phénomène que les États-Unis, c'est vrai ?
Oui, les estimations, en tout cas, disent que c'est autour des 45%, donc disons 40, entre 30 et 40% des faux avis. En Allemagne, les estimations sont de cette hauteur également. Aux États-Unis, on a des estimations qui varient entre 10 et un tiers, donc 10 et 33% des avis.
Au départ, Andreas Munzel, finalement, cette pratique, elle était relativement artisanale. Et puis, peu à peu, elle s'est, disons, professionnalisée. À quoi remonte, justement, ce virage? Et pourquoi est-ce qu'on est passé comme ça à une échelle, j'allais dire, industrielle du mensonge numérique? C'est une simple question, justement, d'échelle. C'est lié, finalement, à l'augmentation du nombre d'internautes. Ou est-ce qu'il y a peut-être d'autres explications moins évidentes?
Oui, il y a tout à fait, en fait, l'importance des avis d'internautes dans la prise de décision des internautes, donc des consommateurs aujourd'hui qui est très, très importante. Il y a des chiffres qui disent 90%, donc 9 sur 10 internautes lisent des avis d'internautes avant prendre une décision pour l'achat d'un produit ou la réservation dans un hôtel. Donc il y a vraiment ce vrai défi qui est derrière. Il y a des chiffres également qui disent s'il y a un avis négatif, je renonce à un achat. Donc, c'est pour plus que la moitié des internautes, ils disent, voilà, s'ils disent un avis négatif, ils renoncent, ils abandonnent un achat. Et de l'autre côté, un avis positif peut même stimuler un achat spontané de la part de l'internaute. Donc, il y a vraiment cet effet sur les ventes, donc vraiment tangible sur les ventes des entreprises. Donc, il y a donc à la fois cet effet-là, donc l'efficacité ou l'effet, l'impact de ces avis. Et également, il y a les sites, les gestionnaires des sites qui travaillent sur leur algorithme, sur la façon, sur les moyens d'identifier des faux avis, donc qui deviennent aussi de plus en plus professionnels pour identifier des indicateurs sur le faux. Donc pour éviter pour passer à travers de ces filets en fait des filtres des sites d'avis, il faut une certaine professionnalisation, donc malheureusement, de la gestion ou de la génération des avis.
D'accord, donc c'est aussi une réponse justement à l'amélioration des algorithmes de reconnaissance des faux avis, c'est aussi ça.
Oui,
on va en parler tout à l'heure justement de ces algorithmes, mais d'abord peut-être faire une petite typologie de tout ça, parce que derrière ces faux commentaires, on a plusieurs types d'acteurs. On a par exemple les salariés des entreprises, on a des consommateurs rémunérés, et puis on a aussi des agences d'e-réputation.
Tout à fait. Donc c'est vrai qu'il y a comme un cycle. Donc vous disiez tout à l'heure, ça passe en fait d'une production artisanale à une vraie professionnalisation. Donc c'est tout à fait ça. Donc d'abord c'était soit l'hôtelier, le restaurateur, donc lui-même qui rédigeait un avis ou demandait à ses employés de le faire. Après il y avait des clients soit qui proposaient explicitement leur service, donc des consommateurs qui disaient voilà, vous me payez, je vous rédige un avis. Et il y a maintenant ce dernier virage vers des agences de réputation qui, dans leur package, qui quand même comprennent tout un tas de services, de prestations.
Et c'est justement ces agences de réputation qui, d'une certaine manière, ont rendu ce marché global. Parce que je le disais dans mon introduction, quand on voit les différents acteurs qui se cachent derrière ces paravents numériques, on retrouve des gens, des individus, des internautes, notamment du côté de l'Inde ou du Bangladesh. C'est-à-dire qu'effectivement, dans ces pays d'Asie, on fournit l'essentiel des petites mains qui vont produire les faux commentaires.
Tout à fait. Donc il y a des lignes en fait de réaction, un cahier de charge qui est préparé par les agences de réputation, qui sont ensuite communiquées aux petites mains comme vous dites, qui après se tiennent pour fabriquer, pour écrire un avis qui semble authentique. Donc en y intégrant par exemple des fautes d'orthographe ou d'autres aspects pour paraître, pour passer à travers des filets. En même temps, il y a aussi des robots qui existent, donc vraiment la production plutôt automatisée des faux avis. Donc c'est pas seulement les petites mains, il y a aussi donc des logiciels qui permettent de copier en fait, de prendre des parties de phrases déjà préfaites pour intégrer tout dans un avis qui là aussi paraît authentique ou vrai.
Ça rapporte de produire des faux commentaires, des faux avis ?
Malheureusement, ça semble vraiment rapporté, parce que il y a quelques semaines, quelques mois, il y avait notamment une personne qui rédige pour une marque des faux avis, qui dit que voilà, c'est par faux avis, c'est 14 dans l'ordre de 14 euros, donc pour une production de autour de 250 avis par mois, ce qui semble faisable, c'est quand même un salaire de 3 500 euros. Donc il y a quand même, il semble y avoir un marché derrière. Et ça, c'est un exemple d'un internaute en France et même pas dans d'autres pays que vous avez cités tout à l'heure.
La question du droit, Andreas Munzel, qu'est-ce qui est pénalement répréhensible dans l'acte de produire un faux commentaire ?
C'est en fait de la publicité déguisée. Donc c'est une façon de publicité, donc de pratique commerciale. Le grand problème, dans le cas de la publicité traditionnelle, le consommateur voit et comprend et sait qu'il y a la marque derrière. Donc il y a un certain scepticisme que cet internaute ou ce consommateur applique pour dire de toute façon, c'est clair qu'ils vont promettre un tas de choses, parler plutôt de manière positive de la marque. Donc là, il y a quand même un bouclier de protection. Dans le cas des faux avis sur Internet, l'internaute attend d'avoir un autre internaute, un autre consommateur comme lui, comme l'origine, l'auteur de cet avis. Donc, il ne dresse pas ce même bouclier de protection.
Mais on parle de publicité mensongère en France, mais aux États-Unis, par exemple, je ne sais même pas si le concept existe.
C'est vrai. C'est plus difficile. Ce que les Américains, donc là, ils essayent aussi d'identifier, en fait, les producteurs, les auteurs derrière, mais voilà, il y a aussi des mécanismes qui permettent en tout cas d'identifier cette publicité, cette forme de publicité, en tout cas de falsification d'identité.
Et puis on parle, c'est vrai, beaucoup d'extraterritorialité du droit américain. Il faut quand même préciser que dans ce cas en particulier, si on regarde par exemple l'entreprise Facebook, les termes d'utilisation de Facebook, eh bien, n'ont pas force de loi à l'international. Donc sur le papier, en théorie, faire des profils Facebook, produire du like, produire du faux commentaire avec un profil Facebook, c'est pas répréhensible dans les autres pays que les États-Unis.
Ouais, c'est un vrai souci. Donc c'est sur Internet, en fait, ce qui change par rapport au mensonge ou à la tromperie sur Internet, c'est tout à fait cette échelle mondiale. C'est également la vitesse accélérée à laquelle, en fait, les mensonges, les tromperies se répandent. Donc il y a notamment le World Economic Forum qui parle des cyberincendies sauvages sur Internet. Ça veut dire que les mensonges et tromperies se répandent tellement rapidement, il n'y a pas d'instance de contrôle directement impliquée, comme c'est le cas dans les médias qui sont très réglementés en général.
Il y a pas mal de responsables politiques, hein, Andreas Munzel, qui ont eu recours justement à des faux soutiens pour gonfler en tout cas en apparence l'écho de leurs comptes Facebook et autres Twitter. Mitt Romney, par exemple, avait vu son compte prendre plusieurs dizaines de milliers de fans, c'était près de 30% de ses followers, visiblement s'avérait être de faux profils. Il y a l'Italien aussi Beppe Grillo, le leader du parti du mouvement 5 étoiles également. Il y a des responsables politiques français aussi qui ont été concernés. C'est assez répandu, même si visiblement on commence un peu à se méfier, hein.
C'est vrai, il y a un certain scepticisme qui commence à naître quand même parmi les citoyens, les internautes. Ça, c'est vrai, sur Twitter, sur Facebook, il y a le phénomène en fait des faux avis. Donc là, on parle des faux followers, des faux comptes, des faux likes. Sur Twitter, il y a deux type peut-être de mensonges ou de tromperies. Il y a à la fois les spammers, donc ceux qui en fait utilisent leur voix sur Twitter pour répondre, diffuser des mensonges explicitement. Et il y a les faux comptes, donc les faux followers. Donc là, comme vous dites, c'est pour gonfler le nombre de followers pour avoir plus de popularité. Donc c'est vraiment la popularité sur Internet qui aujourd'hui compte pour donner une légitimité aux personnes de parler, de s'exprimer et d'être écoutées.
Andreas Munzel, je vais vous poser une question naïve, pardonnez-moi d'avance. Pourquoi les entreprises comme Facebook ou Twitter font régulièrement le ménage dans les faux profils ? En quoi est-ce que ça constitue un préjudice pour elles ? Et peut-être la question derrière, c'est dans quelle mesure ces pratiques, justement, fragilisent-elles leur modèle économique ?
Oui, donc déjà, ce n'est pas une question naïve, donc c'est tout à fait une bonne question. C'est, tout d'abord, c'est l'auteur qui est en question. Donc, qui est derrière un faux compte, un faux avis, etc. Donc, les consommateurs ou les personnes, les individus se posent cette question. Mais si, en fait, dans le cas de Facebook, Twitter, TripAdvisor, par exemple, comme site d'avis qui a été beaucoup médiatisé ces derniers temps... S'ils n'arrivent pas à filtrer, à identifier et à éliminer les faux avis, il y a vraiment leur réputation et leur business, tout à fait, qui est en danger derrière. Donc, c'est vraiment une responsabilisation des gestionnaires des sites, et, donc Facebook, Twitter et les sites d'avis, pour identifier, parce que sinon... Les internautes vont partir. Donc, ils vont se tourner vers d'autres types de sites, d'autres réseaux sociaux, s'ils estiment que ce site-là, ce réseau social-là, ne permet pas d'identifier ou d'éliminer des faux comptes, des faux likes, etc.
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
Culture Monde cette semaine sur l'art du mensonge. Aujourd'hui, faux profil, faux like derrière les paravents numériques. On est avec Andreas Munzel qui est avec nous en duplex depuis Toulouse. Andreas Munzel qui est chercheur au Centre de Recherche en Management Toulouse et qui va être rejoint tout de suite par un nouvel invité. Ici en plateau, c'est Nicolas Arpagian. Bonjour Nicolas Arpagian.
Bonjour.
Directeur scientifique à l'Institut National des Hautes Études, de la Sécurité et de la Justice et notamment rédacteur en chef de la revue Prospective Stratégique, auteur de nombreux ouvrages sur la cybersécurité, notamment le Que sais-je que j'ai là sous les yeux qui était paru au PUF. Alors, on va parler tout à l'heure ensemble de cyber-espionnage, parce que c'est vrai que le cyber, disons que les mensonges dans le cyberespace, il y en a finalement agitent les relations internationales, mais il y en a aussi dans le domaine purement économique. Je voudrais qu'on évoque une affaire ensemble, Nicolas Arpagian, celle du Club Med. À partir de mai 2013, un homme d'affaires italien, Andrea Bonomi, a cherché à acquérir le Club Med. Un autre acteur était en piste, un conglomérat chinois, Fosun. Il y a une bataille judiciaire qui s'engage entre les deux acteurs. Et puis finalement, on apprend là, au début de l'année, en janvier 2015, qu'Andrea Bonomi décide d'abandonner son projet au profit de Fosun. Est-ce que vous pouvez nous rappeler cette bataille dans laquelle, justement, il y a eu aussi du mensonge, parce que je crois qu'il y a eu des faux analystes financiers qui ont publié un certain nombre d'informations, des tribunes dans la presse pour tenter de prouver que l'offre italienne était mauvaise.
Parce qu'effectivement, une EPA, c'est avant tout une offre financière. On propose à des actionnaires plus cher pour leurs actions de manière à ce qu'elles changent de main et qu'il y ait un nouveau propriétaire. Simplement, il faut également s'intéresser au projet d'entreprise. Et le projet d'entreprise, c'est tout ce qui va concerner la réputation, les intentions d'un des acquéreurs et pourquoi pas son passé ou éventuellement ce qu'il va faire de l'entreprise. Dans le cas du Club Méditerranée, c'était deux projets qui s'affrontaient. Un très haut de gamme qui était la poursuite de celui fait par M. Henri Giscard d'Estaing, l'actuel président, qui avait le soutien de l'actionnaire chinois. Et d'un autre côté, le retour au modèle Trigano historique, c'est-à-dire plus populaire, porté par l'Italien Bonomi, effectivement, avec le retour d'ailleurs d'un fils Trigano. Et donc on a ces deux mondes qui s'affrontent et dans le domaine financier, et on voit apparaître dans un certain nombre de médias des tribunes signées par des analystes financiers, signées par des prétendus experts avec qui ont d'ailleurs des titres académiques ou qui ont des diplômes et qui prennent position pour critiquer notamment le candidat italien sur sa politique passée, sur le caractère aventurier de sa proposition et donc pour relativiser l'intérêt de lui donner crédit. Et donc effectivement, on voit que des grands médias sont mis à contribution avec des intitulés.
Sans le vouloir, ils n'étaient pas impliqués.
Alors, ils ne sont pas impliqués. En fait, ils ouvrent des espaces contributifs, c'est-à-dire la possibilité à des professionnels de venir s'exprimer, certes pour faire leur propre communication, mais également pour participer au débat public. La seule chose dans le cadre de cette affaire, c'est qu'on a vu aboutir le système de la fausse identité, c'est-à-dire avec des individus dont on avait pris des photos sur Internet, sur des plateformes comme Facebook, Flickr, c'est-à-dire des gens là où vous pouvez mettre éventuellement, Florian, vos photos de vacances, vous auriez pu, votre portrait aurait pu être pris. Alors en général, ils ont appris à le maquiller. En quelque sorte, ils vont faire en sorte, par exemple, de changer le décor autour de la photo du portrait qu'ils veulent. Ils vont essayer même de l'inverser, un effet miroir, de manière à ce que si on recherche votre photo sur des moteurs de recherche d'images, elle soit plus difficile à trouver. On va inventer un nom d'entreprise pour votre employeur. On va inventer une fonction prestigieuse, académique ou dans le domaine de la finance. Et puis surtout, on va vous inventer une fausse vie. Une fausse vie avec un profil LinkedIn qui va mentionner une carrière professionnelle, qui va mentionner un diplôme universitaire, qui va mentionner des amis, des contacts, des relations. Bref, on va vous donner une densité sociale qui va donner crédit à votre prise de position.
Mais Nicolas Arpajon, sur le papier, ça peut être très difficile, effectivement, de produire ce type de mensonge. En revanche, ce qui doit être beaucoup plus difficile, c'est de déceler le mensonge. Comment est-ce que vous avez vu ? Parce que je crois que c'est vous qui avez transmis, finalement, ce dossier à l'autorité des marchés financiers.
En tout cas, moi, j'ai interrogé l'autorité des marchés financiers, l'AMF, un des gendarmes de la bourse, pour dire, voilà, est-ce que dans le cas d'une EPA à 1 milliard d'euros, puisque c'est quand même l'enjeu de l'EPA du Club Méditerranée, est-ce qu'on peut, sur la place de Paris, qui est une place qui a la prétention d'occuper un rôle stratégique dans la finance internationale, on peut comme ça mener des campagnes de dénigrement de grande ampleur en utilisant des plateformes sociales et en ayant justement une volonté de dénigrement. Alors après, il y a des outils techniques. C'est vrai que moi, dans une enquête précédente publiée en 2013, j'avais désigné des entreprises ou des organisations qui étaient bénéficiaires de ce type de pratique. C'est-à-dire qu'on voyait fleurir à leur avantage des articles dans des grands médias d'information signés par des analystes financiers, par un chargé de mission au musée d'Orsay, par un responsable d'un cabinet de chasse de tête qui effectivement prenait position en faveur ou en défaveur d'entreprises. Et on voyait simplement que je n'avais pas les éléments techniques permettant de démontrer que les entreprises qui bénéficiaient de ces louanges étaient les commanditaires de ces opérations. Donc je me suis contenté sur le site du journal du net, journaldunet.com, de publier une liste d'entreprises bénéficiaires de ces pratiques, ce qui ne veut pas dire qu'elles en sont les commanditaires. Bien évidemment, on ne peut pas le prouver.
Est-ce qu'on sait finalement qui était derrière ces fausses tribunes? Alors, on a compris, c'était des faux profils. Donc,
voilà. Alors après, il y a toujours. Alors, en fait, il y a une officier. Alors après, dans
parce
le cadre,
évidemment,
dans le cadre du club
Nicolas Arpajon, comme on est un petit peu, on est un petit peu pervers, on se dit que peut-être que le groupe chinois qui essayait de racheter le Club Med avait peut-être.
Alors, le groupe
des
chinois,
intérêts,
où, donc voilà, où les dirigeants, en place de l'entreprise Club Méditerranée. Enfin, après, il faut toujours effectivement chercher. Et ça, c'est l'enquête qui peut le déterminer. À qui profite le crime? Par contre, on a trouvé dans le cadre des investigations numériques une officine, Istrat, qui effectivement, qui était basée à Paris, enfin à Neuilly, pardon, à l'époque, qui effectivement était à l'origine de ces campagnes de fausses informations, prenant position justement en faveur du candidat, critiquant le candidat italien. Là, en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y avait une espérance technique de la part de l'officine en question, qui était d'utiliser chaque ordinateur à une plaque d'immatriculation, ce qu'on appelle une adresse IP, et donc qui permet de singulariser, d'identifier un ordinateur. Là, l'idée étant d'avoir un petit logiciel qui permettait, selon les dirigeants de cette officine, de changer toutes les 10 secondes, c'est-à-dire, estimait-il, se mettre à l'abri de toute investigation numérique, puisqu'en clair, c'est comme si vous rouliez à tombeau ouvert sur l'autoroute et que votre plaque d'immatriculation changeait en permanence. Si vous êtes flashé, ce ne sera jamais le bon numéro qui sera inscrit sur la photographie et donc vous passerez à travers la sanction. Ce qui est intéressant, c'est de voir en tout cas que dans l'économie, dans l'entreprise grand public, il y a cette démarche-là. Vous évoquiez tout à l'heure les acheteurs de faux profils, de faux likes, de faux vues sur YouTube. Je vous signale que dans le métro parisien, il y avait, jusqu'à encore il y a quelques semaines, des campagnes de publicité pour ces services. Donc on voit bien que si on vise le métro parisien, comme disait le général de Gaulle à 17h, c'est qu'on vise vraiment le grand public, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que ces outils d'usurpation d'identité, ces outils de fraude, d'atteinte à la fin de fausse réputation, ont une relative banalité dans la vie quotidienne de nos compatriotes. Et donc, des entreprises sont à la manœuvre, mais également des particuliers quand il s'agit de soigner leur propre réputation personnelle.
Andreas Munzel, aujourd'hui, il y a des algorithmes qui sont censés repérer les fraudes, repérer les faux commentaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots comment est-ce qu'ils fonctionnent et nous dire s'ils sont efficaces ?
Oui, c'est tout à fait. Donc c'est les collègues en système d'information qui développent en fait sur des mécanismes d'apprentissage des machines, en fait des indicateurs, notamment sur les textes, pour identifier un faux avis et comparer ou séparer un faux d'un vrai avis. Donc c'est un traitement automatique qui est basé sur l'apprentissage de la machine, donc du système, du logiciel. Sur la base, il y a une base de données en fait d'apprentissage pour apprendre à la machine qu'est-ce qui distingue un faux d'un vrai avis. Et donc, dans le cas de faux avis, ce qui existe, c'est il y a différents indicateurs. Par exemple, on a appris que les superlatifs, par exemple, sont plus souvent utilisé dans les faux que dans les vrais avis. Donc il y a aussi des questions sur la longueur des phrases, etc., sur les émotions à exprimer, sur la sur si c'est je ou nous. Donc il y a tout un tas d'indicateurs qui par les algorithmes peuvent être identifiés.
Mais avec quelle certitude ? Parce que évidemment on met en place un petit outil technique, mais est-ce qu'il s'avère efficace ? Est-ce qu'il permet justement de distinguer le vrai du faux ?
Ce qui est très intéressant, il y a un site sur Internet donc, qui a été publié par des collègues des États-Unis qui s'appelle Review Skeptic. Sur ce site, ils disent à une certitude de 90%, on est capable, si vous collez le texte d'un avis dans le champ libre, d'identifier, de vous dire si c'est un faux ou un vrai. Ce qui est très difficile aujourd'hui, donc il y a cet algorithme ou ces indicateurs qui ont été identifiés, ça fait quelques mois, quelques années qu'ils ont été identifiés. Aujourd'hui, tout à l'heure, on a évoqué la professionnalisation de la génération, de la production de faux avis, etc., qui permettent en fait, donc l'indicateur ou cet algorithme dit qu'il y a des superlatifs plus probables dans les faux avis, donc nouveau cahier de charge, nouvelle ligne de conduite pour les petites mains, pour les rédacteurs de faux avis, il faut moins utiliser les superlatifs.
Ah oui, donc évidemment on s'adapte, donc c'est une course effrénée, Nicolas Arpège.
Parce que par exemple, sur les photos que j'évoquais tout à l'heure, lors de la première enquête de 2013, j'ai retrouvé des photos par exemple d'un assureur au fin fond de l'Arkansas ou d'un joueur de tennis suédois qui avait changé de carrière pour devenir directeur commercial d'une entreprise, donc j'ai retrouvé la photo originelle qui a servi à illustrer les faux profils. Un an et demi après, ils ont vu qu'on pouvait repérer les photos, donc maintenant ils maquillent, et en l'occurrence dans l'officine en question, ils avaient dans la répartition du bureau, dans le service, ils avaient quelqu'un qui travaillait au maquillage des photos. C'est vrai aussi que le profil des émetteurs est important. En clair, si vous commencez à faire des commentaires, le même commentateur fait des avis sur différentes langues, différents centres d'intérêt très disparates, c'est ça qui est toujours qui peut alerter et qui permet d'être automatisé, parce que en clair, le gestionnaire du site, les Facebook, les Twitter ont aussi l'avantage d'avoir toute l'analyse de ce que font les vrais utilisateurs. Et donc, quand vous avez quelqu'un qui a autant de centres d'intérêt disparates, qui éventuellement sur des langues étrangères, voire n'intervient que par vague, c'est vrai qu'il y a toute une intelligence à mettre de manière à comprendre ces comportements anormaux. Je prends l'exemple des comptes que nous avons, enfin qui à l'époque ont été fermés au Journal du Net de manière unilatérale parce qu'on considérait qu'ils étaient faux. Et on s'était dit, de toute façon, si on nous contacte, on ira discuter, on s'excusera auprès de ceux qu'on a fermés à tort. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu aucun retour. Évidemment, tous ceux qu'on avait fermés étaient faux. Et donc, il y a ça aussi où effectivement, on peut s'apercevoir, on apprend à les retrouver. Et dans ce cas-là, c'est effectivement un business. Il faut garder à l'esprit que les plateformes Google, YouTube et autres sont très intéressées par retirer ces faux, même si elles ne veulent pas en faire un sujet de communication, parce que c'est aussi un élément de valorisation de leur régie publicitaire. C'est-à-dire que leurs annonceurs, elles Bien veulent sûr. Payer mmh. pour des vrais gens de chair et de sang. Et donc, quand on leur dit qu'il y a déjà les morts, les gens qui sont en prison, rentrés dans les ordres, qui déjà ne sont plus actifs sur leur compte, mais si en plus vous leur dites qu'il y a des faux, et c'est ce qui oblige les plateformes, et c'est la raison pour laquelle elles font ce nettoyage, de manière à crédibiliser leur assiette publicitaire, parce que c'est là le cœur de leur activité.
Andreas Munzel, si les algorithmes de reconnaissance ne sont pas infaillibles, si la loi ne peut pas tout régler, ça veut dire qu'il faut envisager d'autres solutions pour lutter justement contre ces faux commentaires, contre ces faux avis, contre ces faussaires du net. L'une des solutions, c'est de mettre en place des labels qui visent à certifier justement tout ça, avec derrière des moyens pour contrôler, pour vérifier la production de contenu.
Oui, c'est une des démarches, une des initiatives qui ont été entreprises pour lutter contre ces faux avis. Donc, il y a notamment l'Association française de normalisation, donc l'AFNOR, qui a développé et publié il y a 2 ans maintenant une norme volontariste pour les gestionnaires des sites pour lutter contre les faux avis. Donc, un catalogue de critères, d'exigences formulées par l'AFNOR et un groupe de travail.
En quelques mots, c'est quoi ces exigences ?
Donc c'est vraiment ça présente donc vraiment la possibilité d'identifier des faux avis. Donc qu'est-ce qui est entrepris par le gestionnaire pour identifier, pour filtrer éventuellement? C'est également donc la présentation, la gestion et la modération des avis sur leur site. Donc par exemple la gestion des avis, c'est notamment est-ce que en fait on publie les avis en fonction des dates de soumission, ou est-ce qu'on a tendance, qui serait donc une manipulation, tendance à mettre plus les avis positifs en avant au détriment des avis négatifs. Donc, où il y a une gestion un peu ralentie pour les avis négatifs, et pour les avis positifs soumis, on les publie plus rapidement. Donc, il y a tout un catalogue qui est lié vraiment à la gestion des avis par le gestionnaire du site.
Nicolas Arpagian, les auditeurs n'ont pas l'image, mais vous avez un peu d'eau de linée quand on a parlé justement de ce label-là. Est-ce que vous croyez au principe, on peut éventuellement évoquer la norme AFNOR, mais le principe de la labellisation des commentaires, des avis?
En fait, la labellisation pose la question de l'identité sur Internet. C'est-à-dire, est-ce que vous avez un droit ou pas à l'anonymat sur Internet? Puisqu'évidemment, si vous êtes sûr, et si tout le monde est sûr que c'est Florian Delorme qui prend la parole, vous allez peut-être, vous, plus mesurer votre propos, vous allez faire attention à vos commentaires. La question, effectivement, et c'est pour ça qu'en amont, c'est surtout, est-ce que l'on a un droit à l'anonymat sur Internet? Puisque, en fait, ce qui pose problème, c'est qu'on a des commentaires dont on
s'aperçoit. Facebook, vous répondrez que non, puisque dans sa charte d'utilisation, Facebook vous dit que vous n'avez pas le droit d'utiliser un pseudo. Devez utiliser votre véritable patronyme.
Voilà, ce qui n'est pas tout à fait vrai, c'est en fait que Facebook vous laissera utiliser un pseudo dès lors que lui saura qui vous êtes. C'est-à-dire que c'est pour ça que vous pouvez recevoir éventuellement de temps en temps des messages de la part de Facebook vous disant Florian, pouvez-vous me confirmer que Totor du 92, c'est votre ami Geneviève du genou? C'est-à-dire que de temps en temps, Facebook envoie à des utilisateurs des messages en quelque sorte pour lui-même valider, et il s'avère qu'il l'envoie à 10 contacts de la personne en question, et s'il y en a 3 qui répondent oui, après lui, il a des règles de corrélation. Ça veut dire qu'effectivement, selon ces éléments, ça veut bien dire que c'est la personne qu'il avait identifiée. Donc, se pose la problématique de l'identité sur Internet, qui est de se dire que est-ce que c'est un élément aussi de surveillance? Le fait que vous pourriez vous restreindre, vous pourriez ne pas prendre position sur des débats politiques, sur des débats éthiques, sur des débats de société, parce que vous diriez non, on va pouvoir, dans le grand inventaire, m'attribuer cette prise de position, et donc je me restreins. C'est vrai que le problème, c'est que c'est la barrière à franchir, c'est est-ce qu'on considère que si vous n'avez rien à cacher, vous pouvez le faire sous votre identité, et si vous avez des idées que la morale, la loi pourrait sanctionner, eh ben vous vous abstenez de le faire, vous le faites dans d'autres enceintes. C'est cette question de l'anonymat, cette question de la labellisation des avis, elle est effectivement problématique. Alors on a mis en place des déclarations sur l'honneur, on a mis en place le fait qu'on vous demande, par exemple c'est le cas maintenant aujourd'hui sur le site leséchos.fr, on vous demande votre numéro de téléphone. Alors, c'est à la fois certainement un jour pour peut-être faire du marketing, mais c'est aussi pour considérer que vous avez une singularité. Et on vous envoie un SMS sur cette ligne de téléphone de manière à activer votre compte qui vous permet de faire des commentaires.
Qu'est-ce que vous répondez, Andrés Mounzel, quand vous entendez la critique de Nicolas Arpagian qui nous dit que
l'interrogation.
Derrière ce problème de la labellisation, on a celui de la protection de la vie privée, de la protection de son anonymat. Andrés Mounzel.
Je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Nicolas donc sur ce point. C'est notamment le problème de ce label actuellement, notamment de l'AFNOR, qu'elle est très peu appliquée, où il y a des sites qui se déclarent être conformes à la norme sans être vraiment labellisés, certifiés. C'est vrai que aujourd'hui, donc il y a toujours la discussion TripAdvisor, par exemple, pour donner un exemple, qui a travailler avec tout un tas de ce groupe de travail pour développer cette norme, et a été très longtemps encore plutôt réservé sur l'application, notamment par rapport à l'anonymat et l'identité et l'identification de ces utilisateurs. On voit également qu'il y a quand même là aussi la cybersphère, où en fait les internautes qui demandent quand même et qui sont quand même plus exigeants. Il y a très récemment une campagne sur Twitter qui a commencé pour dire, donc c'est le hashtag no receipt no review, pour dire que voilà, la labellisation semble être difficile, mais au moins, si vous publiez un avis, il faut fournir un justificatif d'achat, justificatif d'expérience pour crédibiliser votre avis. Donc ça, c'est une autre, oui. C'est une autre manière. Donc c'est, on part un peu de l'idée de labellisation, mais on responsabilise l'internaute à dire, si vous publiez un avis, vous voulez être lu. Pour être lu, il faut certifier, crédibiliser votre avis. Donc sur l'identité, je suis tout à fait d'accord avec, Nicolas. C'est un sujet plutôt critique qui ralentit encore, en tout cas, cette adoption de la norme AFNOR.
Alors laissons de côté cette question de la labellisation. Place au cyberespionnage.
We suspect that there is a nation state behind the development of this cyber attack.
Nous suspectons qu'il y ait un État-nation derrière cette cyberattaque en Israël. Il y a des raisons à cela. Cette application ne correspond à aucun groupe existant développant les outils de cyberattaque. Et nous essayons de ne pas spéculer sur qui pourrait s'intéresser à une telle attaque. Nous nous basons simplement sur les faits, comme les caractéristiques linguistiques, et dans ce cas, nous ne trouvons que des traces de très bon anglais dans cette application.
Voilà, donc un expert russe de chez Kaspersky Lab à propos d'un virus informatique qui avait ciblé plusieurs pays du Moyen-Orient, notamment Israël et l'Iran. Visiblement, il s'agissait là d'un cyberespionnage parrainé par un État. Nicolas Arpagian, vous êtes un spécialiste de cybersécurité. On parlait tout à l'heure de faux profils. Il y a quelques jours a été révélée une histoire de faux profils où des hackers iraniens se faisaient passer pour des recruteurs via le réseau social professionnel LinkedIn. Selon un rapport de l'entreprise de cybersécurité Dell Secure Works, les espions avaient créé des comptes de recruteurs de grandes multinationales afin de se rapprocher d'utilisateurs venant d'Arabie Saoudite, du Qatar, des Émirats Arabes Unis, du Pakistan, des États-Unis, tous travaillant dans les secteurs, soit dans les gouvernements, dans les télécoms, dans la défense. C'est devenu, en fait, Nicolas Arpagian, un classique du cyberespionnage, cette utilisation de faux profils.
En tout cas, ça devient un élément qui fonctionne pour l'instant. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit émerger par communauté, et c'est très net. Vous évoquez ce cas, effectivement, au Moyen-Orient. On a eu le cas il y a quelques semaines, également sur LinkedIn, auprès justement de la communauté des experts en cybersécurité qui étaient sollicités par des chasseuses de tête au profil tout à fait avantageux.
Vous avez été ciblé ?
Je l'ai reçu, donc oui. Je l'ai vu une fois, deux fois, mais c'est vrai qu'il y avait des... Alors bon, il s'avère que moi, les faux profils, c'est une préoccupation, donc je me suis interrogé sur la nature de cette recherche. Mais c'est vrai que l'idée étant effectivement de faire ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale, qu'est-ce que c'est plutôt que de vous braquer pour vous demander votre code de carte bleue, c'est si je deviens votre ami, je pourrais peut-être connaître votre code de carte bleue. Donc sans haine ni violence, en quelque sorte, l'idée étant de se dire qu'on peut rentrer dans un système, souvent, notamment quand il s'agit de capter de l'information, de la faire de manière la plus indolore possible pour votre cible. Il faut que votre cible ignore son statut de victime, c'est très important, parce qu'elle ne modifiera pas les informations qu'elle détient, elle ne les protégera pas différemment et elle ne les placera pas ailleurs. Et donc, le but de ces attaques par des faux profils, c'est de faire en sorte qu'elles soient indolores, que vous ne vous rendiez pas compte, et que si un jour, quelques semaines après, quelques mois après, vous constatez bien que vous avez subi un préjudice, vous ne fassiez pas le lien avec cet ami, cette relation professionnelle que vous avez acceptée quelques semaines auparavant. Donc, on est dans quelque chose qui est la nature même du renseignement, c'est-à-dire de capter de l'information à valeur ajoutée. À chaque fois, vous voyez bien qu'on est quand même dans des stratégies qui sont avec des cibles à haut potentiel, à valeur ajoutée. Il s'agit de capter du renseignement.
Vous parliez de profil au physique avantageux. Il faut aussi rappeler cette histoire. Il y a quelques mois, un groupe de pirates informatiques est parvenu à soutirer des informations militaires et personnelles auprès de membres de la rébellion syrienne, justement en utilisant des faux profils féminins sur les réseaux Skype, sur les réseaux Facebook. On avait eu d'ailleurs une opération du même genre menée par le Hezbollah avec, je crois, 200 soldats réservistes de l'armée israélienne. Évidemment, derrière tout ça, il y a un vrai problème, c'est qu'on peut aussi soutirer notamment des informations de géolocalisation.
Certainement. Dans le cadre, effectivement, de l'armée israélienne, c'était une jeune femme qui, comme par hasard, d'ailleurs, ne cherchait que des relations qui étaient soldats ou réservistes dans l'armée israélienne. Et elle se préoccupait de savoir, tiens, tu vas partir bientôt en mission, tu partiras combien de temps, tu partiras où et les jeunes, effectivement, qui sont dans une relation épistolaire et distante, ne sont pas forcément conscients que, en fait, l'information l'information qu'il donne est une brique et que c'est l'addition de ces briques qui va permettre d'une part de valider l'information qu'ils fournissent, mais surtout d'établir un plan et de pouvoir le transmettre à des gens qui ont des intérêts stratégiques, militaires, qui relèvent effectivement de l'activité d'espionnage conventionnelle.
Et évidemment, activité d'espionnage qui ne coûte pas grand-chose. C'est une technique qui demande très très peu de
c'est
moyens.
De la matière grise. Voilà. C'est de la matière grise. C'est-à-dire qu'il faut, c'est de la même manière, on revient sur l'histoire des faux profils, il faut de la matière grise parce qu'il faut trouver, il faut occuper le temps durablement. C'est-à-dire qu'il faut répondre, ne pas évidemment toujours interroger la personne sur le positionnement des troupes parce que ça perdrait dans la spontanéité et la fraîcheur de la conversation. Mais donc il faut quand même alimenter. Ouais. C'est un travail de petite main, c'est un travail, c'est le principe d'Internet où effectivement, plus vous marquez votre territoire, plus quand on va chercher des informations sur vous, vous aurez de la densité, vous aurez de l'existence. On l'a également lorsqu'il s'agit de manipuler les contenus comme Wikipédia, c'est exactement la même chose. Beaucoup de gens interviennent de manière marginale sur Wikipédia. Pourquoi ? Parce que plus vous contribuez à Wikipédia, plus vous avez des droits pour modifier les fiches et ce qui fait que ça devient là aussi un élément de renseignement et d'influence.
Question très importante, Nicolas Arpagian. Comment les États répondent justement à ce type de défi ? Est-ce que par exemple, par des États-Unis au hasard, dont on sait qu'ils sont évidemment très attentifs à ces questions de cybersécurité, est-ce que par exemple l'État américain sensibilise ses boys pour qu'ils cessent d'accepter comme amis justement des profils de très jolies jeunes filles derrière lesquelles peuvent se cacher des talibans ?
Alors,
je prends cet exemple pas
les,
du tout au hasard.
Les Américains ont évolué dans leur doctrine, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a quelques années, ils avaient dit interdiction sur les théâtres d'opération de venir avec des téléphones, d'avoir un lien sur des réseaux sociaux, vous devez vous couper du monde le temps de vos missions. Il s'avère que ça a créé manifestement un certain émoi. Pourquoi ? Parce qu'il y a une génération qui a pris l'habitude de vivre avec, qui est dans une relation très particulière, très intime avec cet outil. Et donc, la doctrine américaine est revenue. Et simplement, il y a beaucoup de pédagogie. Alors, vous savez, vous vous rappelez sans doute des affiches de la Deuxième Guerre mondiale où on vous disait, à Londres, où vous voyez quelqu'un sur un banc, on vous disait l'ennemi est partout et donc ne parlez pas même sur un banc d'un jardin public. En fait, effectivement, c'est très difficile pour cette société numérisée dès lors qu'on a ce téléphone partout avec nous et qu'il est devenu une espèce de compagnon pour beaucoup de gens. Alors, il faut beaucoup de pédagogie et surtout, il faut beaucoup de se tenir au courant des nouvelles formes d'attaque. C'est-à-dire, effectivement, si actuellement, c'est un cabinet de chasse de tête, demain, ce sera peut-être effectivement des rencontres sentimentales. Dans un troisième cas, ce sera peut-être un copain d'école ou quelque chose qui soit, on va essayer de trouver une dimension ancienne liée à l'histoire personnelle de l'individu. Donc, à chaque fois, c'est d'avoir ce sens de la pédagogie pour se tenir au courant de la menace, comme on le fait dans le domaine conventionnel et dans le domaine militaire. Par contre, ce qui est certain, c'est que les États-Unis ont aussi créé des unités dédiées à ces réseaux sociaux, d'une part pour les analyser, savoir, par exemple, pour étudier ce que disent les jeunes soldats russes qui sont actuellement en Crimée, qui sont en Ukraine, qui sont pour tâter et pour connaître leurs sentiments et leur état d'esprit, notamment quand ils communiquent à travers ces outils à leur famille, et également pour, là aussi, créer des faux profils ou faire en sorte toutes les grandes armées ont créé maintenant, d'une part, de l'audit, mais également de l'alimentation de ces sites.
Vous ne répondez pas complètement à ma question, Nicolas Arpagian, donc ce n'est pas grave, je la repose. Il y a effectivement ces unités, mais est-ce qu'on sensibilise les soldats, les militaires américains à cette menace ?
Oui, c'est pour ça que quand je dis qu'il y a une doctrine, c'est qu'en fait, je devrais être plus précis, c'est qu'en fait, on leur remettait même une notice pour leur dire voilà ce que vous ne devez pas faire, voilà ce que vous ne devez pas dire, c'est un document formel. Simplement, la seule chose, c'est comme 5 fruits et légumes par jour, fumez-tu ? Semble-t-il, des gens, malgré l'indication, continuent à fumer.
On va retrouver une nouvelle invitée par téléphone, c'est Fanny Georges. Bonjour Fanny Georges.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Maître de conférence en sciences de la communication à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Vous travaillez-vous sur l'identité numérique depuis une quinzaine d'années et vous êtes intéressé aux usages des réseaux sociaux dans d'autres cultures. La plupart des travaux, c'est vrai, concernent les États-Unis et l'Europe très essentiellement. Vous avez mené, vous, des recherches sur l'utilisation par les Touaregs de ces réseaux sociaux, notamment ceux de l'Azawad, cette région du Nord Mali dans laquelle est implanté le mouvement national pour la libération de l'Azawad, qui est toujours en conflit avec le gouvernement malien. Alors on pourrait trouver ça étonnant que les Touaregs soient des utilisateurs de réseaux sociaux, mais en fait c'est un outil extrêmement évidemment utile, très utilisé pour faire communauté, d'autant plus quand elle est éclatée un peu partout dans le monde. On parlait à l'instant de faux profils, d'espionnage. Les Touaregs aussi sont parfois victimes d'espions qui s'introduisent comme ça dans les communautés d'usagers, Fanny Georges ?
Oui, tout à fait. D'autant que les pseudonymes, enfin les noms utilisés par les Touaregs pour faire justement, pour signifier leur appartenance à la communauté Touareg sont assez caractéristiques. puisqu'on a déjà le terme hag ou wallet dans les noms courants, c'est-à-dire qu'en fait, hag, c'est fils d'eux, wallet, c'est fille d'eux, et pour, en fait, un Touareg va s'appeler par son prénom, suivi de hag ou wallet, et ensuite du nom de son père. Mmh. Et donc, dans les réseaux sociaux numériques, cette caractéristique notamment est utilisée par des infiltrés qui vont utiliser donc cette caractéristique pour être acceptés dans les réseaux sociaux numériques, alors que ce soit des réseaux sociaux numériques publics comme Facebook, ou bien également des réseaux sociaux privés comme des groupes dans WhatsApp.
Et mais pour quelle raison, Fanny Georges, finalement, à quelle fin est-ce qu'on s'infiltre comme ça dans cette communauté d'usagers ?
Bien, comme c'était dit précédemment, il y a déjà cette question d'obtenir des informations sur les positionnements des troupes pendant les périodes d'affrontement. Mais plus généralement, c'est une stratégie qui est utilisée pour fragmenter les communautés constituées par les indépendantistes justement dans ces réseaux sociaux, et en particulier ceux sur WhatsApp, des réseaux sociaux privés. Donc il s'agit de à la fois de calomnier par exemple des personnes, entretenir une peur de l'étranger ou une peur ciblée sur un journaliste ou bien sur une personne qui n'est pas connue de la communauté. Et obtenir des informations, surveiller évidemment ce qui se passe dans ces réseaux privés.
Donc déstructurer les communautés, créer des divisions. Est-ce que les Touaregs, finalement, même question un peu en miroir que celle que je posais à Nicolas Arpajian, à qui je demandais si finalement l'État américain formait ces boys pour les sensibiliser à cette menace, est-ce que les Touaregs ont mis en place, disons, des procédés pour contrôler l'identité des personnes qui s'invitent dans ces cercles Touaregs est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place, Fanny Georges?
Alors ici, on a une très grande force des réseaux en face à face. C'est-à-dire que lorsqu'un doute, on a des doutes sur les sujets ont des doutes sur des personnes, des nouvelles personnes susceptibles d'être infiltrées, bien ils vont s'appeler par téléphone et organiser en fait une observation de la personne en question dans différents contextes. Donc ça va être par des messages privés de différentes personnes qui vont essayer par différentes techniques, que ce soit la séduction, que ce soit la relation amicale, en fait, de pouvoir voir si cette personne est cohérente et surtout également l'observer sur le long temps. C'est-à-dire à la fois observer toutes ses publications sur son profil Facebook, par exemple, mais sur WhatsApp, il va s'agir également de voir quel est le comportement de la personne sur la longue. Et à ce moment-là, en fait, ces personnes-là qui sont soupçonnées d'être des infiltrés vont être blacklistées. Donc il y a vraiment un énorme usage en fait de la liste noire dans ces réseaux sociaux, en particulier sur Facebook.
On n'est pas très loin, Nicolas Arpajian, de finalement ce que font les experts en cybersécurité.
Assez exactement ça, c'est-à-dire qu'effectivement, validé par un autre biais, et j'apprécie beaucoup le côté, effectivement, le téléphone, de la même manière qu'on reçoit un message par un certain canal, on a des doutes, on le valide par un autre, effectivement, d'étudier le comportement sur la durée, voir les comportements, alors il n'y a pas de sens moral, mais déviant, c'est-à-dire qu'il ne soit pas normal et qui donc suscite et intrigue, suscite la curiosité. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la rapidité avec laquelle ils se sont approprier cet outil, parce que j'imagine que le saut technologique a été extrêmement important, et donc c'est impressionnant de voir la capacité à mettre ces filtres face aux usages qu'ils ont dû apprendre de manière tout aussi rapide, les usages contrefaits en quelque sorte, et donc de voir qu'il y a une relative sagesse à mettre en place ces outils. C'est-à-dire que c'est pas de les rejeter en tant que tels en disant on s'en passe parce qu'effectivement ils peuvent être partiellement douteux, donc on n'en tient pas compte, mais de voir qu'il y a une espèce de filtre qui se met en place, de cahier des charges, de procédures assez intuitives, mais qui, somme toute, semblent pouvoir donner des résultats, puisque c'est effectivement ce qu'on recommanderait s'il fallait établir une stratégie de riposte face à ces infiltrations.
Toute dernière question, Fanny Georges, parce que vous disiez finalement ce qu'essayent de faire ces personnes qui sont derrière ces faux profils, c'est créer des divisions, déstructurer les communautés. Il y a aussi, on parle cette semaine de mensonges, il y a aussi des stratégies de mensonges, notamment sur le nombre de victimes lors des affrontements armés.
Oui, tout à fait. On a observé ça il y a quelques mois. Ils pouvaient, en fait, dans les différents camps qui terroristes affrontaient. On avait la diffusion en fait du nombre de victimes, voire des photos des victimes sur les réseaux sociaux numériques, alors en particulier les réseaux sociaux privés. Donc nous, on en avait des échos par des témoignages, hein. Donc c'est à prendre avec précaution. Mais en tout cas, ce qu'on observait, c'est que pour une journée, à la fin de chaque journée d'affrontement, on avait un bilan des victimes dans l'un et l'autre camp qui ne correspondait pas du tout. Et ensuite, des polémiques consistant à accuser l'autre camp de mentir pour faire impression sûre. Donc il y a un énorme usage aussi de ces réseaux sociaux numériques pour communiquer en fait à la suite des conflits. Donc il y a vraiment une seconde phase suite à chaque journée d'affrontement qui s'observe aussi dans les réseaux sociaux numériques sur cette communication des résultats des affrontements.
Andreas Munzel, peut-être une réaction depuis votre duplex à Toulouse. Vous n'êtes pas un spécialiste de cybersécurité, de cyberespionnage, mais qu'est-ce que justement, de votre point de vue, tout ça vous inspire, Andreas Munzel?
C'est vrai que comme moi, je bouge un peu dans un contexte de interaction entreprise et consommateur. C'est vrai que là, on transpose ce sujet à des contextes beaucoup plus graves, plus sérieux également. Le point qui me semble très intéressant, c'est cette démarche pédagogique à la fois. Donc là, pour former des soldats, tout à l'heure, vous avez évoqué. Là aussi, je pense qu'il y a cette éducation ou formation des internautes aujourd'hui à tous les moments qui est très important, comme les autres mécanismes. On a parlé de la labellisation, on peut évoquer d'autres, semblent être assez réduits dans l'efficacité. Donc la formation, l'éducation de l'internaute peut être une vraie démarche, initiative pour le futur.
Et ben finalement, c'est celle qu'on aura retenue aussi, nous, à notre petite échelle, un peu de pédagogie. Merci beaucoup à tous les trois. Fanny Georges d'avoir été avec nous, Nicolas Arpagian qui était avec nous en studio ce matin et Andreas Munzel en diplôme depuis Toulouse. Bien sûr, on pourra retrouver les références de vos ouvrages, notamment La cybersécurité qui est parue au PUF de Nicolas Arpagian. On va mettre tout ça sur le site de Culture Monde sur la page de France Culture.